pour s'assurer que tout fonctionne bien. Donc, bonsoir. Frère Gérard, Pasteur Bernard, Frère Guy, Mme Flory et toutes les autres personnes qui sont là et qui nous suivent déjà, qui sont déjà connectés, que Dieu vous bénisse. On devrait commencer dans quelques instants, dès qu'on me dit à l'arrière, go! Je dois parler un petit peu plus, donc voilà tous ceux qui sont là. Bon, je vois la sœur Suzy qui vient de se connecter, que Dieu vous bénisse, et tous les autres que je sais qui se connectent par d'autres moyens, mais que je ne peux pas voir sur mon cellulaire. Dieu est bon et Dieu est fidèle. Nous avons eu une excellente année. Malgré la COVID, la pandémie et tous les défis que nous avons eus, on peut dire que nous avons eu une excellente année parce que nous avons un Seigneur qui est excellent. Nous avons un Dieu qui est bon, qui est merveilleux et qui est notre secours ou a été notre secours jusqu'à maintenant, comme nous avons vu dimanche avec le message de la parole. Eh bien, Esther, jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Et on peut le dire avec assurance, avec joie, avec confiance, avec espoir également pour l'avenir. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais nous savons que Dieu a réservé de bonnes choses pour nous et que Dieu est en contrôle de toutes choses. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette dernière session d'études de la parole de 2020. Nous avons été 30 semaines ensemble et vous m'avez supporté. Ça veut dire que Dieu a fait un grand travail dans vos cœurs, dans votre vie. Vous avez été patient, vous avez été fidèle, fidèle à Dieu, fidèle à sa parole. Donc, Dieu est bon et je tiens à être reconnaissant envers Dieu pour cela, pour cette opportunité qu'il m'a donnée de pouvoir avoir ce partage avec vous sur un sujet qui me tenait à cœur et dont le Seigneur avait mis dans mon cœur au début de l'année. Et lorsque, dans le fond, Dieu a permis que je prenne les mercredis soirs, eh bien, j'ai compris que la direction de Dieu s'en allait là-dedans. Et je pense qu'on a pu explorer beaucoup de choses par rapport au service. On a pu apprendre beaucoup de choses par rapport au service. On a peut-être été mis au défi plus qu'une fois. On a sûrement été interpellé, appelé à corriger certaines choses et à se remettre davantage entre les mains du Seigneur. Et toutes ces choses-là sont bien, sont pas mauvaises, sont bien. Ça montre que Dieu est à l'œuvre dans notre vie. Ça montre que Dieu veut notre bien. Et pas juste notre bien. Dieu veut le meilleur pour nous. Et que le champ est ouvert, la voie est libre pour nous de servir Dieu. Encore plus précieux, je dirais, et valorisant dans un contexte comme celui qu'on vit aujourd'hui. Je pense que c'est précieux. Je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est important et c'est un privilège. Alors, profitons-en, profitons de sa parole, de tout ce qui nous a été donné durant l'année pour être de meilleurs croyants, de meilleurs enfants de Dieu et de meilleurs serviteurs. Donc, à vous tous, merci d'avoir été là, merci d'avoir été fidèles, d'avoir suivi cet enseignement de la parole qui, dans le fond, déploie ou dévoile la pensée de Dieu, pas la mienne, mais celle de Dieu. Parce que, à l'instar que vous, moi aussi, J'étais en apprentissage durant tout ce temps-ci. Beaucoup de choses j'ai appris, beaucoup de choses également j'ai été mis au défi. Et c'est une énorme opportunité, un privilège qu'on a juste de pouvoir avancer ensemble, main dans la main avec le Seigneur, et main dans la main aussi, peut-être pas physiquement, mais de cœur et d'esprit avec vous tous. Et quelle différence, quel impact peut-on faire si nous améliorons, si nous montons la barre du service, de la qualité du service, de la quantité du service que cette Église offre, autant à Dieu, autant à l'Église qu'au monde. Je pense qu'on pourrait avoir, on peut juste avoir un meilleur et un plus grand impact à Montréal et partout où est-ce que le Seigneur nous placera, nous a placés et nous placera. Donc, à vous tous, merci. Je tiens à remercier également mes acolytes, ma petite bande de techniciens et toutes les mes mon frère, mes frères, parce qu'il y avait des fois le frère Léo aussi qui était présent, le frère Yann également, sœur Dorothy, sœur Patricia, merci beaucoup pour votre soutien. Sans vous, tout ceci ne serait pas possible de le faire. Et merci d'avoir été fidèle, d'avoir démontré de l'engagement, de la responsabilité, de l'amour pour l'œuvre de Dieu, pour que la parole de Dieu puisse être partagée. Donc, tout ceci, tout ce que vous avez fait n'est pas en vain. Dieu a permis, ou ça permet aussi que la parole de Dieu puisse toucher des cœurs, arriver à des gens. Et tout ceci également, vous verrez les fruits dans votre vie, dans vos foyers. Merci beaucoup pour tous les efforts. Que Dieu vous bénisse. Pour toutes les personnes qui également qui contribuent de proche ou de loin, je tiens à remercier mon nom personnel et au nom également de ma famille pour tout le soutien, pour tout l'appui, pour tout l'amour, l'encouragement qu'on a ressenti durant toute l'année. Ça a été très valorisant, très apprécié de nous tous. Et on se sent aimé, on se sent entouré, même que pour mes enfants. Donc, nous avons une belle famille dans le Seigneur et on peut juste être reconnaissant envers Dieu et envers vous pour cela. On espère que l'année qui s'en vient nous permettra de relever de nouveaux défis, mais également d'atteindre de nouveaux objectifs et de voir une croissance, de voir une progression, de voir la main de Dieu agir puissamment autour de nous et dans nos vies, dans nos foyers et juste avancer encore plus en tant qu'Église. L'Église n'est pas en pause, on l'a dit plusieurs fois, l'Église avance. Donc que nous puissions avancer davantage dans la lumière de Dieu, dans sa grâce, dans son amour et dans sa gloire. Petite annonce vite vite, n'oubliez pas demain, ça a déjà été annoncé à partir de 23h15, il va y avoir une petite réunion spéciale avec le pasteur Florent et son épouse, je pense. Il y aura un temps de prière, d'action de grâce, de célébration de la Sainte Cène également. Donc, vous avez encore le temps de vous préparer pour la Sainte Cène. Donc, on vous invite à prendre part, à participer à cette assemblée qui aura lieu, bien sûr, à travers les plateformes habituelles, à partir de 23h15, et ça devrait terminer autour de minuit. Donc, pour pouvoir être ensemble dans cette fin d'année et commencer également ensemble dans la nouvelle année, dans la bénédiction du Seigneur. Alors voilà pour l'annonce. Ce soir, on fait quelque chose de particulier. On rentre pas dans une nouvelle leçon, dans le fond. Ce soir, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de faire un résumé des 30 dernières semaines. C'est tout un défi. De ramener 30 heures, même un petit peu plus de 30 heures d'études dans une heure. Essayer de rentrer ça, de compacter ça dans une heure. C'est tout un défi, mais je pense que c'est réalisable et c'est possible. Et de se concentrer, dans le fond, sur, sur des blocs ou des sujets qui ont été, qui, à mes yeux, du moins de ce que j'ai ressenti, ont été importants, ont servi de colonnes ou de piliers durant toute cette semaine. Je vous invite également, si jamais ça vous tente, de peut-être partager dans les commentaires s'il y a eu un sujet, un thème par rapport au service, tout ce que nous avons couvert, qui vous a peut-être frappé le plus, qui vous a peut-être interpellé le plus, qui vous a peut-être mis plus au défi que d'autres. C'est sûr qu'il y a eu des semaines où ce que les sujets qui ont été traités ont été plus proches à vous, à votre réalité, à vos besoins. Et peut-être que ça serait bien de pouvoir le partager. Donc, je lance ça libre, c'était pas planifié. Si jamais, on vous tente de mettre dans les commentaires qu'est-ce qui vous a, le sujet, qui peut-être un sujet ou deux qui vous a le plus frappé durant ces 30 semaines, qui vous a le plus touché, interpellé. Vous pouvez le partager. Donc, je vais boire un petit peu d'eau, j'ai beaucoup parlé. Et on va beaucoup parler également ce soir. Donc ce soir, on ne fait pas de résumé de la session précédente, on fait un résumé des 30 sessions précédentes. Et il faut bien étudier parce qu'il y a un examen qui s'en vient. Bon, l'examen, c'est la vie qui nous le donne, l'examen. C'est la parole de Dieu, le quotidien qui nous donne l'examen, qui nous démontre si vraiment on a appris la leçon ou si on doit revenir et répéter la leçon. Bon, gloire à Dieu. Alors, nous avons vu le livre de Marc, l'Évangile selon Marc, à partir du chapitre 1, verset 1. Nous avons arrêté. On est à peu près, on dit, à mi-chemin dans l'Évangile. Nous avons arrêté la semaine dernière au chapitre 8 et le verset 34, lorsque Dieu parle, ou Jésus parle plutôt de la vie du disciple. Donc, nous avons commencé de l'introduction, et ce n'est pas l'introduction de Jésus, c'est l'introduction de Jean-Baptiste. C'est l'introduction d'un serviteur qui a servi pour préparer, dans le fond, l'arrivée du Messie. Donc, nous avons commencé par l'introduction du service et nous avons achevé jusqu'à la vie du disciple et les deux vont de pair, les deux vont ensemble. Si nous sommes disciples, nous sommes serviteurs. Et si nous sommes serviteurs, eh bien, nous sommes disciples aussi. Et ce qu'on a vu en introduction, dans le fond, ce qu'on pourrait dire, j'ai essayé de séparer ça comme en 7 blocs à peu près. Qu'on va essayer de passer à travers durant les prochains 45 minutes, 50 minutes. Le premier point, c'est le profil du serviteur. Ce qu'on a vu dans les premières semaines pourrait se regrouper dans le fond dans ça, dans ce que représente le profil, ou qu'est-ce qu'on pourrait comprendre du profil du serviteur en se basant sur l'Évangile selon Marc. Marc, comme on l'a dit déjà, présente Jésus comme le serviteur modèle. Donc, c'était évident que si on veut discuter, si on veut étudier sur le service, eh bien, il faut aller là où la Bible nous parle par rapport aux différents aspects du service. Alors, en introduction, eh bien, nous avons vu que il y avait un lien. Marc fait un lien entre Jean et Ésaïe, lorsqu'il dit, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » Donc, on voit un lien qui se fait sur un laps de 600, 700 ans à peu près, entre Ésaïe et Jean-Baptiste. Et on voit que, dans le fond, avec ce lien-là dans le passé, un serviteur n'est pas un atome tout seul, libre, dans le royaume de Dieu, dans le corps de Christ. Bien souvent, on a cette impression qu'avec Dieu, avec nous, Dieu va faire quelque chose de nouveau qu'il n'a jamais rien fait. Puis on a ça dans la parole. Tu sais, que ce que Dieu a préparé pour nous, ça jamais, personne n'en a entendu, personne ne l'a vu, ça n'a jamais monté au cœur. Là, je paraphrase un verset. Ce que Dieu a préparé pour ceux qui sont appelés selon son dessein. Je veux dire, bien souvent, on pense qu'avec Dieu, avec nous, Dieu va réinventer la roue. Avec Dieu, avec nous, Dieu va recommencer quelque chose, alors que c'est juste une continuité de son plan. C'est juste une continuité de son plan depuis des siècles. Et le fait que nous sommes appelés à servir, le fait que nous rentrions dans une vie de service, doit nous amener à réaliser qu'il y a eu beaucoup de gens avant nous. Beaucoup de gens qui ont fait un travail remarquable. Il y a beaucoup d'ouvriers qui ont donné leur vie, qui ont fait des sacrifices pour que nous, aujourd'hui, on soit ici. Nous, aujourd'hui, on ait cette occasion, cette opportunité-là de servir Dieu, de connaître Dieu premièrement. Parce qu'il y a des gens qui ont servi. Il y a des gens qui ont donné leur vie dans le passé. Et là, Jean-Baptiste a ce lien avec Ésaïe dans lequel, dans le fond, il prend le flambeau. Il reprend le flambeau de ses prédécesseurs. Et on voit par la suite que Marc fait un lien entre Jean et Jésus. Jean qui prépare le chemin pour la venue du Messie. Donc, la vie de Jean, son service, son mandat, était destiné à préparer la voie, le chemin pour le Seigneur. Et là, ça nous met en évidence qu'il y a également un lien avec le futur. Un lien avec la prochaine génération. J'ai une responsabilité envers la prochaine génération. Je ne peux pas vivre juste pour moi. Ce que Dieu me donne à moi, quand Dieu me voit, Dieu ne me voit pas juste moi. Dieu voit des générations après moi. Dieu voit beaucoup plus loin que ma petite existence. Dieu voit beaucoup plus loin que ta petite existence. C'est pour ça que des fois, quand Dieu travaille dans nos vies, là, on ne comprend pas tout. Parce que nous avons une vision tellement limitée de Dieu et de ce qu'il fait, alors que lui, sa portée est beaucoup plus loin. Dieu, lorsqu'il nous voit, il ne voit pas juste une génération, il en voit plusieurs. Donc, le fait de mettre en lien également avec le futur est important. Est important parce que là, le serviteur, toi, moi, ben on n'est pas, comme on dirait une expression en espagnol qu'on dit, on n'est pas le dernier Coca-Cola du désert, là. On n'est plus la dernière affaire, puis qu'après nous, il n'y aura plus personne comme nous. Non, on fait partie d'une lignée, on fait partie d'un plan. Il y a eu des gens avant nous, et il y aura des gens après nous qui vont servir. Et nous avons notre rôle aujourd'hui, dans le présent. Et nous devons servir avec ce sens-là. Que nous prenons le flambeau de prédécesseur, mais qu'on a la responsabilité de préparer la voie pour la prochaine génération, pour que cette génération-là aille plus loin. Donc, je ne peux pas avoir une vision du service centrée sur moi. Elle doit aussi être centrée sur qu'est-ce que je vais laisser moi pour la prochaine génération. Qu'est-ce que je vais laisser pour ceux qui viendront après moi. Pour ceux que Dieu appellera et que Dieu établira après moi. Ça, c'est important, dans le fond, à garder en tête, parce que ça nous démontre également que le plan de Dieu est plus grand que nous. Puis ça nous replace, ça nous remet à notre place. Lorsqu'on pense qu'on est hot, qu'on pense qu'on est super bon, qu'on est vraiment indispensable, que Dieu ne peut pas se passer de nous. Calmons les nachos. Le plan de Dieu est beaucoup plus grand. Nous on fait juste partie de ce plan-là. Et ça nous démontre également que nous avons été sauvés, nous avons été créés pour servir. Donc, en introduction, c'est ce que nous avons vu. Nous avions également parlé de l'engagement, de l'importance de l'engagement. Et ça, on l'a vu lorsque Jésus va au Jourdain pour se faire baptiser. Et on voit qu'il y a un engagement qui est à deux sens à ce moment-là. Jésus qui se baptise, qui rentre dans les eaux, et qui dit à Jean, c'est nécessaire que cela soit fait c'était dans le fond pour nous, pour qu'on comprenne que il y a un engagement qui doit être pris avec le Seigneur, de le suivre, d'être son enfant, d'être son disciple, d'être son serviteur, et cet engagement-là se prend par le baptême. C'est un geste qui est fait publiquement pour déclarer que dorénavant, notre vie appartient au Seigneur, que nous faisons de Christ le centre de notre vie, que nous faisons de Christ notre Seigneur et Sauveur, et que nous allons être ses disciples, donc que nous allons le suivre et le servir. Donc voilà l'engagement de nous envers Dieu. Mais le Saint-Esprit qui descend comme une colombe et se pose sur Jésus est une démonstration de l'engagement de Dieu envers nous, dans le sens que il nous laisse pas tout seul dans ce voyage, dans ce pèlerinage. Il ne nous laisse pas seul. Il vient demeurer en nous. Il fait de nous sa demeure. Et l'engagement qu'il prend avec nous lorsqu'il dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin, sa présence, sa personne et son engagement envers nous, dans le sens qu'il dit qu'il ne va jamais nous laisser, qu'il va toujours être là avec nous et en nous. Et ça, c'est précieux parce que la vie chrétienne, la vie en Christ, c'est une vie de communion dans la plénitude de Dieu. Je suis engagé envers lui, il est engagé envers moi. Je suis en Christ, Christ est en moi. Voilà la plénitude dont parle la parole de Dieu. Et les paroles qu'on entend, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai toute mon affection », la voix qui se fait entendre du ciel nous démontre également qu'il y a la marque d'amour. Il y a une démonstration d'amour que je dirais qui est particulière dans la vie de tous ceux qui ont l'engagement de suivre Dieu. Dieu aime tout le monde. Ça, Dieu est amour, Dieu aime tout le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais il y a quelque chose de particulier avec ceux qui prennent l'engagement de suivre. Eux vivent vraiment une transformation, que je pourrais dire même quotidienne, régulière. Une transformation par l'expérience de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Et ça, c'est précieux. Et c'est juste quelque chose qui se connaît et qui se découvre dans l'engagement. Comme un mariage, il y a des choses qu'on découvre, qu'on expérimente en ce qui concerne l'amour et l'intimité, qu'on le connaît, on le découvre tout simplement dans le mariage. Donc, l'engagement. Et l'autre bloc qu'on avait vu dans ce qui concerne le profil, c'est l'épreuve. Jésus a été tenté, on le sait, il a été amené par l'Esprit pendant 40 jours dans le désert où est-ce qu'il a été tenté par le diable. La parole relate 3 des tentations. Il y en a peut-être eu plus, on ne sait pas. Mais à travers cela, la parole de Dieu nous démontre un peu le caractère du serviteur. Lorsqu'on voit le profil du serviteur selon Dieu, qu'est-ce qu'on doit retrouver? Et on retrouve que la parole est numéro 1. Parce que Jésus, à chaque fois, il a dit, il est écrit. Donc, Jésus allait toujours à la parole pour se défendre, pour prendre position, pour baser son raisonnement. Jésus allait toujours à la parole. Donc, il est écrit. La parole était numéro 1 dans sa vie. Il a fait preuve également d'humilité, d'intégrité, d'obéissance, de fidélité. Il a refusé tout compromis avec le monde, avec le diable. Il a mis sa confiance en Dieu. Il avait le discernement. Et on a vu également l'adoration, où est-ce que le diable lui dit, ben, écoute, je te donne toutes les richesses du monde, toutes les gloires, la gloire du monde, si tu te mets à genoux, si tu te prosternes et tu m'adores. Et lui dit, tu adoreras seulement le Seigneur ton Dieu. Et donc, l'adoration fait partie du profil recherché du serviteur. Et avec tout cela, on comprend que le serviteur de Dieu démontre. Il démontre son appartenance totale, exclusive à Dieu. Et l'autre chose également, c'est que Jésus aurait pu juste sauter des étapes. et arriver à l'objectif qu'il devait atteindre, il aurait pu le faire en un clin d'œil. Jésus aurait pu arriver en tant qu'adulte sur terre et aller à la croix 30 secondes, et mourir et voilà, c'est fait. Non. Jésus est venu comme un enfant, il a grandi, il a eu ce processus d'apprentissage et même en ce qui concerne le service, Jésus a été mis à l'épreuve et Jésus n'a pas sauté des étapes. Donc ça, c'est une autre démonstration également importante dans le profil du serviteur de Dieu. Un, qui démontre son appartenance totale et exclusive à Dieu. Et deux, qui ne brûle pas des étapes qui sont nécessaires à son apprentissage. Donc ça, c'est un peu le premier bloc, les premières semaines qu'on a vues ensemble. On a traité de ces sujets-là. Si vous voulez plus de détails, bien, je vous invite à aller revisionner ces séances, ces sessions. Elles sont tous sur la page Facebook de l'Église. Ensuite, ce qu'on peut parler par rapport au service, qu'est-ce que nous avons vu les orientations du service. On a vu qu'il y a trois grandes orientations en ce qui concerne le service. Premièrement, il y a Dieu. Nous sommes appelés à servir. Et à servir qui? Nous servons Dieu. Parce que c'est lui qui nous a appelés, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a établis, celui qui nous a créés. Donc nous servons Dieu. Et une chose qui est importante à garder en tête, c'est que l'amour et le service vont ensemble. On va servir là où est-ce que Dieu s'attend de voir de l'amour de notre part. On va servir là où est-ce que il y a l'amour. Le service doit se faire avec amour. Et la Bible nous dit d'aimer Dieu. Dans Marc chapitre 1, 30, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Mais il dit aussi d'aimer l'Église. Dans Jean 13, 34, 35, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, s'il y a de l'amour, il y a du service. S'il y a de l'amour, il y a du service. Probablement qu'il y a un couple qui a besoin d'entendre ça ce soir. Là où il y a du véritable amour, il y a du service les uns envers les autres. Donc l'Église, Dieu nous appelle à servir l'Église. Pourquoi? Pour que l'Église soit l'Église. Pour que l'Église soit fortifiée, pour que l'Église soit édifiée, pour qu'il n'y ait aucun indigent, pour qu'il n'y ait aucun besoin au milieu de l'Église. Et donc, l'Église est un merveilleux champ missionnaire, un merveilleux champ de service, pas de missionnaire, de service. Les missions, c'est vers l'extérieur. Ensuite, le troisième orientation, le troisième champ, c'est le monde. Et c'est là où est-ce que c'est le champ missionnaire. Et encore là, Jésus dit dans Marc 1, verset 31, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est ton prochain? Ben, c'est tout le monde. Tout le monde. Donc, aimer Dieu, servir Dieu, aimer l'Église, servir l'Église, aimer le monde, servir le monde. Donc, si vous demandez ben, dans quoi je suis appelé à servir, ben, mon ami, tu es appelé à servir Dieu, à servir l'Église et à servir le monde. Je ne crois pas, et ça c'est mon opinion personnelle, je ne crois pas qu'une personne soit juste appelée à servir Dieu et à pas servir l'Église ni servir le monde. Moi, je n'y crois pas. Je crois que nous sommes tous appelés, et peut-être il y a des efforts à faire pour développer ou créer des opportunités, ou que Dieu nous aide à créer des opportunités de service envers le monde ou envers l'Église. Mais je pense que nous tous nous sommes appelés à servir Dieu, à servir l'Église et à servir le monde. Et par là, nous comprenons qu'un service doit être rendu en tout lieu, et que le service, dans le fond, s'adapte aux circonstances, aux différents événements. Jésus s'est adapté aux différents contextes, et il a toujours servi. Même en temps de sabbat, même en temps de fête juive, Jésus ne limitait pas son service, il continuait à servir tous et chacun. Jésus nous a démontré également que le service, c'est quelque chose qui est dynamique. qui est en mouvement, une église qui sert, c'est une église qui est dynamique. Une église qui a compris c'est quoi le service, c'est une église qui va être active, qui va être en mouvement. Il va y avoir du dynamisme dans cette église. Ça ne va pas être une église morte, une église religieuse, une église où est-ce qu'on fait juste s'asseoir et écouter un sermon. Non, Dieu ne veut pas ça. Ce n'est pas ce qui a été voulu ou établi. Alors, un service est dynamique. Un service qui est rendu à tous, peu importe leur statut social, peu importe le style de vie, peu importe la réputation, peu importe la condition spirituelle, sociale, physique de la personne qui est devant, le service doit être rendu à tous. Et un service doit être rendu également à tous, peu importe le besoin. Parfois, il peut y avoir des besoins, et les disciples l'ont démontré lors de la première multiplication des pains. Il y avait un besoin, et les disciples ont dit à Jésus, « Renvoie la foule, que ce soit le problème de d'autres personnes, pas le nôtre. » Ça, c'est pas l'attitude du serviteur de Dieu. Nous servons, peu importe le besoin. Et si nous sommes dans des situations dans lesquelles on se sent dépassé, eh bien, on peut faire appel à d'autres. On peut faire appel à d'autres dans la prière. On peut faire appel à Dieu dans la prière. On peut faire appel à d'autres, viennent nous encourager, nous appuyer dans la prière, ou viennent nous appuyer dans ce qui est nécessaire à être fait, que ce soit parce qu'ils ont un peu plus d'expérience, de connaissances, parce qu'ils ont des ressources que nous n'avons pas. C'est un travail d'équipe. Alors, même pour servir une personne, il peut y avoir toute une équipe qui sert cette personne-là pour le bien de cette âme, pour son salut, pour sa délivrance, pour sa bénédiction. Un service qui est orienté vers Dieu, l'Église et le monde, et c'est un service qui va de pair avec la parole de Dieu. C'est un serviteur également qui ne restera pas insensible, et on l'a vu durant toutes ces semaines à quel point Jésus était ému jusqu'aux entrailles. Jusqu'à son plus profond, il était touché, il était ému. Il ne pouvait pas rester les bras croisés, immobile devant la situation. Et un serviteur également qui ne s'arrêtera pas jusqu'à voir un redressement de la situation. Ça, c'est un autre élément qui est important parce que des fois, on dit, ben, OK, je vais juste faire ça maintenant, puis c'est fini. Je ne m'en occupe plus. Pour le reste, Dieu se chargera. Mais combien de fois Dieu veut qu'on aurait aimé qu'on reste, qu'on continue, qu'on soit persévérant dans notre service jusqu'à ce qu'il y ait un redressement de la situation. Qu'on soit persévérant, qu'on soit constant dans notre service. Donc voilà pour le point numéro 2 qui concerne les orientations du service. Nous allons maintenant au bloc numéro 3, qui dans le fond, ce bloc-là, est ce qui a initié chez moi toute cette réflexion et tout cet élan pour amener cette étude-là. Déjà en début d'année, Dieu me parlait sur quelque chose qui allait arriver au mois de mars, qui allait changer les choses et qui allait amener de nouveaux défis à l'Église. Et on sait tout ce qui est arrivé au mois de mars, du moins ce qui a frappé chez nous, notre réalité, au Québec, au mois de mars. Certains, ça a été plus tôt. Eh bien, bloc numéro 3, on a vu, dans le fond, qu'il y avait une transition vers... Cette année, dans le fond, représentait une transition vers de nouveaux défis. Et avec cette année, nous avons eu cette tempête qui s'est abattue sur le monde, qui s'est abattue également sur l'Église. L'Église qui était représentée dans ce que nous avons vu, la barque de Jésus, lorsque Jésus dit « passons de l'autre bord ». Et que là, il y a une tempête qui se lève soudainement. Et que Jésus dormait et que les disciples ont eu peur parce qu'ils voyaient que les eaux montaient dans l'eau. Embarquaient dans la barque plutôt, et que là, ils avaient peur de mourir. quelque chose d'inattendu qui est venu vraiment frapper et secouer le monde et l'Église en 2020. L'Église n'est pas restée sensible, on l'a tous vu, on l'a constaté. L'Église a également été impactée par cette pandémie et par tout ce qui est venu avec. Mais une chose est claire, une chose doit demeurer claire, c'est que Jésus a dit, passons de l'autre bord. Il n'a pas dit, on va essayer. Il n'a pas dit, peut-être que ça va marcher ou peut-être que ça ne marchera pas. Il a dit, passons de l'autre bord. Et s'il l'a dit, alors nous passerons de l'autre bord. Par contre, dans quel état nous allons passer de l'autre bord, ça c'est une autre question. Et ça c'est une question qui est très personnelle et c'est un choix que toi et moi on doit faire. Dans quelles conditions de foi? Et cette tempête va soit affermir ta foi, va soit fortifier ta foi ou va l'affaiblir, quitte à ce que tu doutes et que tu tombes de la grâce de Dieu. Mais personne ne restera dans la même condition. Soit les bien-aimés vont se fortifier dans le Seigneur et s'affermir plus dans leur foi, soit ils vont juste s'éloigner plus du Seigneur, se refroidir et tomber de la grâce de Dieu. Le choix pour nous est de décider dans quelles conditions nous allons nous retrouver une fois rendus de l'autre bord. Et nous avions vu également qu'il y a des défis qui nous attendent. Des défis au niveau spirituel, des défis au niveau social et des défis au niveau humain. Au niveau spirituel, nous avons vu lorsque Jésus va dans le pays des Gadaréniens qui rencontre ce démoniaque. Et on avait vu tout le contexte autour de cette rencontre-là qui nous parle, qui nous annonce beaucoup de violence, qu'il va y avoir une hausse de la violence, qu'il va y avoir une glorification de la mort. Et il y a déjà des choses qu'on voit, des signes qu'on voit présents dans la société, dans la culture populaire. On va également assister à une intensification de l'hostilité spirituelle. Et il faut le dire que dans certaines régions, peut-être pas ici, mais dans certaines régions, il y a eu des cas ou des événements où est-ce que de l'hostilité envers des chrétiens, des églises, s'est manifestée, envers tout ce qui représentait le christianisme, a été manifestée dans des régions, des pays où est-ce que ce n'était pas l'habitude. Et donc, c'est déjà quelque chose qui est en train d'arriver. Et par là, on doit comprendre qu'il y a une préparation pour le combat spirituel, pour l'intercession, pour la prière, pour la louange, parce qu'on n'a pas à combattre contre le sang ni la chair, mais contre des principautés dans les sphères spirituelles, contre ce monde invisible. Voilà où est notre champ de bataille. Donc, de se préparer spirituellement au combat et d'être prêt, de savoir qu'il y aura du mépris, il y aura du rejet, il y aura de l'opposition par différents moyens politiques, économiques ou autres. Il va y en avoir davantage. Ça fait partie de ce que Dieu, de ce que Jésus a annoncé dans sa parole. Mais qu'une fois passé, ou lorsqu'on va voir le gros de cette pandémie-là derrière nous, ce sont des choses qui vont être dans la réalité de pas mal tout le monde. Au niveau social, nous avons parlé qu'il allait y avoir une transformation dans la société, que déjà beaucoup de gens parlent de certains, en termes en anglais, un « reset » de la société. Et certains même leaders parlent que cette pandémie apporte l'opportunité de recréer la société. Dans quelle manière, dans quelle portée? Ils ne sont pas très transparents là-dessus, mais le fait qu'ils utilisent ce langage-là porte à croire qu'il y a un intérêt, ou du moins qu'il y a une pensée pour que il y ait des changements qui soient apportés dans notre façon de vivre, dans la société. On a vu également que comme cette femme qui avait perdu du sang pendant 12 ans et qui était, à cause de ça, considérée impure à cause d'une condition de santé, et bien que ça allait, on allait également assister à une marginalisation de certaines personnes dans cette nouvelle société, justement sur des bases médicales, sur des bases de conditions de santé. Et que ça allait déterminer également différentes classes, différents groupes dans la société. Mais que l'Église ne devait pas suivre ce raisonnement-là de société et d'embarquer dans toute forme de marginalisation qu'on va assister dans les prochains temps. S'arrêter, dialoguer, restaurer, c'est ce que Jésus a fait avec cette femme. Jésus s'est arrêté. Jésus a fait un stop à sa démarche pour aller vers la maison de Jaïrus. Il a fait un arrêt. Il n'y a pas eu de problème pour arrêter son programme, pour venir en aide à une madame, une femme qui était marginalisée, à dialoguer. À travers le dialogue, lui redonner son identification comme personne, sa valeur comme être, et de la restaurer. Et que l'Église aura un rôle également au niveau social, de parfois arrêter ce qu'elle fait pour ramener quelqu'un qui a été marginalisé par la société. Et au niveau humain, on l'avait vu avec Jaïrus qui était le chef de la synagogue et qui voyait sa fille, dans le fond, son unique fille, au bord de la mort, une situation extrême. Et on a vu que ce que nous vivons aujourd'hui est en train d'amener beaucoup de gens à l'extrémité de leur vie, à l'extrémité de leur espoir, à l'extrémité de leur croyance. Et que ça va les amener au bout, et qu'à ce moment-là, il va être important que la lumière de Christ vienne croiser leur chemin. D'où l'importance pour nous de continuer à proclamer, de continuer à prêcher, de continuer à annoncer la parole, de continuer à servir. Parce que la lumière de la parole de Dieu va être le seul espoir de ces gens-là. Le seul. Et Dieu va faire de grandes choses. Et donc, l'Église est là pour servir également et payer le prix pour chaque âme, pour chaque famille. Donc, il va y avoir un prix à payer pour l'Église. Donc, voilà le point numéro 3. Où est-ce qu'on parle de choses qui vont arriver, qui sont déjà en train de se manifester, mais qui vont juste s'intensifier davantage. Point numéro 4, ou le bloc numéro 4, puis là peut-être avec certaines diapositives, peut-être vous allez vous en rappeler. On avait parlé de la préparation et de la mobilisation. Lorsque Jésus, dans le fond, il appelle les 12 et qui lui donne des prescriptions, des directions, et qui les envoie en mission dans différentes villes et villages, et les envoie deux par deux pour aller prêcher l'Évangile, et qu'il leur donne également l'autorité. Donc, ils ne partent pas juste avec un message, ils partent aussi équipés avec l'autorité. Et on a vu que, dans le fond, Jésus, dans la préparation, dans la mobilisation, Jésus appelle. On voit que Jésus également équipe, que Jésus va prescrire et que Jésus va envoyer. Et dans l'appel de Jésus, on a vu l'importance de la présence de Dieu, parce que Jésus appela ses disciples à venir vers lui. Et bien des fois, nous, on pense que quand on est appelé pour aller vers le monde. Mais ça, c'est la deuxième partie de l'appel. Le premier appel est vers Dieu. et vers Jésus. Lorsque Dieu appelle quelqu'un au service, il l'appelle à lui. Par la suite, il l'envoie dans un service en particulier. Donc, l'importance de la présence de Dieu est cruciale et nécessaire dans l'appel. Et l'importance également de la communion avec Dieu. Lorsque Jésus appelle à avoir une communion, à être dans la présence de Dieu, à cultiver la présence de Dieu dans cette étape-là. Et par la suite, on voit que Jésus équipe, Jésus outille, Jésus donne des outils, Jésus donne de quoi pouvoir exercer le travail, le service qui sera nécessaire. Et on voit qu'il y a des ressources qui sont spirituelles, on voit qu'il y a des ressources qui sont physiques, qui sont en disposition. Et un terme en particulier, exousia, qui représente le pouvoir et l'autorité de Dieu. Et par là, on comprend que Jésus avait aucune intention de les envoyer les mains vides. Jésus allait les envoyer avec l'autorité, la puissance de Dieu pour pouvoir servir. Et ça également, ça doit nous parler parce que le service, même le plus petit service, doit être fait avec exousia, doit être fait avec amour. Mais Dieu nous donne cette capacité. Dieu nous donne cette permission. Donc, dans la capacité, dans la permission, nous avons le pouvoir et l'autorité de Dieu de pouvoir exercer un ministère, de pouvoir exercer un service, de pouvoir servir le monde, de pouvoir servir l'Église. Ça ne doit pas être fait juste avec notre capacité humaine, sinon autrement, on n'est pas différent que les agences de charité, que les organisations humanitaires. Et l'Église est plus que ça. Alors, exousia, l'importance que de prendre conscience, Jésus veut m'équiper de quoi? Quels sont les outils que Dieu me donne? On a vu également que Jésus a prescrit, donc Jésus a donné des instructions à ses disciples. Et par là, il leur dit également c'est quoi les règles d'engagement, si on peut dire en quelque sorte. Qu'est-ce qu'ils ont droit de faire? Qu'est-ce qu'il leur est permis de faire? On a vu également que Jésus leur a dit de ne pas prendre de sac, ni de prendre d'autres vêtements, de rien prendre de provisions. Et c'était un appel à vivre par la foi, faire confiance à Dieu. Et une personne qui sert. Et là, bien, des fois, on pense que c'est juste, ah, ben, tu sais, c'est la personne qui est appelée à être pasteur, qui est appelée à être évangéliste, qui doit vivre de cette façon-là. Mais c'est toute personne. Il s'adressait à des disciples. Et on est tous appelés à être disciples. Donc, à vivre par la foi. On ne va peut-être pas tous vivre cette foi-là de la même façon, mais il faut qu'elle soit là. Faire confiance à Dieu, que Dieu pourvoira, que Dieu prendra soin, que Dieu va s'occuper de nous. De faire confiance à Dieu. Et si on parle de foi, on doit parler d'obéissance. Et c'est là la clé. Si on reste obéissant dans les prescriptions, dans les instructions que Dieu donne, alors il y aura un impact. Mais si on les fait les choses à notre manière, si on essaie d'accommoder la volonté de Dieu à notre volonté, on va échouer. Je me souviens qu'on avait parlé du cas du roi Saül. Le roi Saül qui avait reçu des instructions bien des fois, mais que lui a quand même voulu faire les choses à sa manière et a quand même essayé d'accommoder sa volonté avec la volonté de Dieu pour que ça l'air beau. Mais aux yeux de Dieu, ce n'était pas beau. Et finalement, on sait ce qui est arrivé avec Saül. Donc, l'importance de l'obéissance également par rapport à ce que Dieu nous prescrit. Et finalement, Jésus envoie, donc c'est la mobilisation. En tant que tel, ça nous parle de sortir de notre zone et de porter le message. Donc, de sortir de notre cocon, de notre milieu habituel, d'aller découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles expériences, d'aller vers des nouvelles personnes et d'y aller également avec le but de porter l'Évangile, d'annoncer, de partager Jésus-Christ, de partager son amour. Et que ça, dans le fond, c'est au cœur du service, au cœur de la mobilisation. On se mobilise parce qu'on veut servir. si on veut servir, on reste les bras croisés, on attend que les gens viennent. On n'a pas compris. C'est quoi le service? Parce que Jésus n'était pas les bras croisés à attendre assis que les gens viennent. Non, Jésus était dynamique. Jésus était en mouvement. Jésus et ses disciples étaient mobilisés. Et c'est ce qui a inculqué à ses disciples également. Donc, servir les autres doit être au cœur de notre mobilisation. Voilà le point numéro 4 que nous avons vu. Donc, la préparation et la mobilisation. Le plan de Dieu s'effectue à travers des gens qui auront été préparés et qui auront été mobilisés. Et ça, c'est important. Ne pas mettre de côté ça en se disant, c'est juste la théorie, c'est pas important, moi je suis un gars d'action. Il y a une préparation également qui est nécessaire et une mobilisation. Ce qu'on a vu également dans ce bloc-là, c'est l'importance du travail d'équipe. Parce que Jésus instaure cette notion-là dans cette mission où est-ce qu'il les envoie deux par deux. Donc là, c'est plus Jésus qui fait le travail. Là maintenant, le travail va se faire également à travers la vie des disciples, à travers la vie des douze. Et des douze, mais en allant deux par deux. Donc Jésus instaure le travail d'équipe. Et ça, c'est un gros défi. Gros défi également pour nous aujourd'hui, où ce que bien des fois, on est mieux tout seul. On a l'impression qu'on atteint les objectifs, qu'on obtient des résultats, de meilleurs résultats lorsqu'on est tout seul que lorsqu'on travaille en équipe. Et ça, c'est un mensonge. Et ça, ce n'est pas comment Dieu a établi son Église, ni a bâti son corps, ou édifié son corps. Nous avons tous un corps qui travaille en équipe. Les différents membres de ce corps travaillent ensemble pour que nous puissions marcher, nous habiller, manger, dormir, parler. Il y a tout un travail d'équipe qui se fait dans notre propre corps. Et c'est comme ça que Dieu veut également dans son corps. Donc, encore là, de penser qu'on est mieux tout seul, c'est un mensonge du diable, c'est un mensonge du monde. Nous sommes appelés à travailler en équipe, à travailler comme un corps. Et l'autre chose, c'est de faire attention à la recherche de la reconnaissance. Ça, c'est quelque chose qui est venu à plusieurs reprises durant les sessions, de bien se poser la question de pourquoi est-ce qu'on veut servir? Est-ce qu'on veut servir pour obtenir de la popularité, pour obtenir de la reconnaissance, pour que les gens nous voient et que les gens parlent bien de nous, parce qu'on a besoin de se nourrir intérieurement de ça. Si on a des lacunes ou des vides ou un besoin dans notre âme de cette reconnaissance-là, le service n'est pas fait pour vous, du moins pas maintenant. Il faut régler ça avant. Parce qu'il ne faut pas rentrer dans le service, il ne faut pas s'embarquer dans un service, que ce soit à l'Église ou que ce soit pour le monde, pour aller satisfaire le besoin constant de reconnaissance. C'est une très mauvaise motivation pour servir Dieu. Alors, faisons attention avec cela également. Donc voilà pour le bloc numéro 4. Bloc numéro 5, donc on poursuit. Bloc numéro 5, la vie du serviteur. Et durant toutes ces sessions que nous avons couvertes, il y a eu différentes leçons que nous avons pu sortir. J'ai essayé de prendre peut-être un élément, une phrase qui a été dite durant cette semaine-là pour essayer de compacter ce bloc-là. Pour ceux qui se souviennent, lorsqu'on a parlé de Jean-Baptiste, c'est là où est-ce qu'on a commencé à parler un peu de c'est quoi la vie. De façon peut-être plus concrète, plus pratique, la vie du serviteur. Premièrement, on a vu justement avec l'héritage de Jean-Baptiste lorsqu'il était emprisonné, et on voit la relation entre Hérode et lui. On voit que Jean-Baptiste, dans le fond, a gardé son témoignage jusqu'à la fin. Il a gardé son témoignage malgré le traitement des gens, je veux dire. Jean a annoncé la parole, a servi Dieu, Et parce qu'il l'a fait ainsi, il s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé en prison sans jugement, sans avoir été en cour, sans avoir passé par un tribunal. Il a tout simplement été pris, puis j'étais en prison. Ça, c'est de l'abus de pouvoir. Ça, c'est de l'abus. Il n'y a pas eu de justice là-dedans. Et bien des fois, dans le service, les gens qui servent Dieu vont être victimes d'injustice. Et il faut pas s'attendre à ce que, parce qu'on vient avec l'amour de Dieu, parce qu'on sert avec l'amour de Dieu, tout le monde va nous accueillir, tout le monde va nous donner la bienvenue, tout le monde va nous ouvrir les portes et tout le monde va nous écouter. Jésus a été rejeté, Jésus fut méprisé, même à Nazareth, son patelin, sa terre, sa région natale, il a été sérieusement questionné et méprisé. Donc, il ne faut pas s'attendre à mieux envers nous. Je pense qu'il faut s'attendre à ce qui est du mépris, à ce qui est du rejet, qui est également du traitement de la part des hommes qui ne soit pas juste. Mais l'importance, à l'image et à l'exemple de Jean-Baptiste, de garder son témoignage. On a vu que la compassion commence à prendre beaucoup plus de place également dans la vie, dans ce que Marc décrit dans les événements par rapport à Jésus. Et ça, la compassion doit être cette force intérieure. Ça doit être le moteur de l'Église. Ça doit être le moteur, la force intérieure dans la vie du serviteur. S'il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de force. On est comme une voiture, elle ne va pas aller loin, la voiture. Elle peut être la plus belle voiture. Elle peut avoir les plus belles couleurs, les plus belles lumières, la plus belle technologie. Mais si le moteur est manquant, ou si c'est un petit moteur, ben, ça ne va pas aller loin. Et Jésus était quelqu'un qui était rempli de compassion. Et sa vie, en tant que serviteur, était une vie marqué par la compassion, par l'amour envers tous et chacun. On a vu également que la vie du serviteur, c'est une vie en alternance entre être avec Dieu, être dans la présence de Dieu, c'est-à-dire prendre du temps à part par la prière. Jésus se prenait un temps où il s'en allait tout seul, soit à la montagne, soit au désert, soit dans d'autres lieux, pour prier, pour être dans la présence de Dieu. Et par la suite, il venait et était parmi les gens. Et la vie du serviteur est un peu comme ça. C'est une alternance entre être avec Dieu et être parmi les gens. On avait vu à un moment donné que les serviteurs, on est comme au carrefour de la vie. Les gens qui veulent servir Dieu vont servir Dieu là où ce que les gens sont, où ce que la réalité des gens est. Il y a des gens qui vont venir, il y a des gens qui vont partir. On va avoir des allées et des venues de gens. Ça veut dire qu'on va être. On va être là dans les expériences que les gens vont vivre, le carrefour de la vie, dans le fond. Et si vous remarquez, si vous qui servez le Seigneur, c'est exactement là où ce que vous êtes. Dieu vous a placé là, au carrefour de la vie. Parce que vous pouvez être en contact avec tellement de personnes. Et dans certains cas, c'est juste une personne que vous croisez une fois dans votre vie. Et le seul travail que vous aviez à faire, c'était de déposer une parole, une semence de la parole de Dieu dans leur vie. Et Dieu fait le reste. Mais c'est une vie, une alternance. C'est une vie également de sacrifice, de décision, où est-ce que parfois, ben, comme on l'a vu avec les disciples également, ben, il faut sacrifier, faire une croix sur un temps de repos, une petite sieste. On aurait aimé ça prendre à un moment donné une sieste, mais là, un besoin est présent et il faut y aller. Il faut servir quelqu'un. Des fois, on aimerait avoir un peu de privé, mais même là, on ne le trouve pas. Et des fois même, faut sauter un repas. Donc, la bonne lasagne, des fois, doit attendre le lendemain ou plus tard dans la journée pour pouvoir être mangée. Mais tout ça pour dire que des fois, le sacrifice est nécessaire. Et c'est un sacrifice qui, comme on a vu, peut prendre différentes formes. On a vu également lorsque Jésus, à un moment donné, se met à part et monte à la montagne, tout seul. Et la symbolique que représente monter à une montagne, c'est d'aller à la rencontre de Dieu. C'est-à-dire de prier, d'avoir une expérience de Dieu à travers la prière. Et que la prière, ce n'est pas juste voilà, ma liste d'épicerie, mais c'est pour être transformé, pour avoir le regard de Dieu, pour avoir un nouveau cœur, pour expérimenter Dieu. Et pour redescendre de la montagne avec une nouvelle vision, une nouvelle perspective des choses. Et ça, c'est important pour le serviteur parce que il a besoin d'être renouvelé. Il a besoin d'être restauré, il a besoin d'être transformé. Et on a vu également qu'à travers les événements, les épreuves de la vie, Dieu nous change afin de mieux servir et de servir davantage. Et dans Timothée chapitre 2, verset 15, et il est écrit: Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Bloc numéro 6, on achève bientôt. Les défis intérieurs du serviteur, ça c'est un autre bloc qu'on a vu également lorsque Jésus attire notre attention sur les défis qui sont intérieurs. Il y a des défis qui sont extérieurs, mais il y en a certains également qui vont être intérieurs, en nous, qui touchent notre cœur. Et on avait vu le problème de l'attachement aux traditions humaines versus la parole lorsque Jésus est rentré pas en conflit, mais du moins que les pharisiens sont venus accuser Jésus. Et qui sont venus avec leur tradition pour accuser Jésus. Donc, le problème de l'attachement aux traditions, aux rudiments du monde plus qu'à la parole, le problème du cœur. Et lorsque Jésus dit, c'est pas ce qui rentre, c'est pas la nourriture qu'on mange qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de son cœur, ce qu'il y a dans son cœur, en commençant par les mauvaises pensées. Et on avait vu qu'il y avait toute une liste noire que Jésus établit, là. Il fait une liste, un inventaire de choses qui sont dans notre cœur et qui dit ça, c'est le problème. Quand ça est dans le cœur, eh bien, il y a des problèmes. Et il y a des problèmes pour le service également. Et le problème du manque d'amour et de compassion, c'est quelque chose qui est revenu également dans ce bloc-là. On a vu que la compassion était un trait de personnalité de la vie de Jésus et qu'on a fait un comparatif. De la compassion. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de versets, de références bibliques qui parlent de la compassion de Dieu envers son peuple. Mais dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup, beaucoup d'emphase qui est mise sur la compassion que nous devons avoir les uns envers les autres. Beaucoup de recommandations par rapport à l'amour et la compassion que nous devons exprimer. Et donc, la nature de Dieu qui était révélée ou expliquée ou présentée dans l'Ancien Testament est notre nouvelle nature en Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour que nous ayons cette nouvelle nature, la nature divine en nous. Donc, le pardon, la miséricorde, la compassion doivent être des forces internes. Doivent être des piliers dans notre vie et dans nos églises. Et on a besoin de comprendre ce qu'est la compassion. On avait dit que la compassion, dans le fond, c'est rentrer dans la souffrance de l'autre. C'est pas juste faire une prière, donner un conseil. Non, c'est rentrer. Jésus est rentré dans mon péché. Jésus a pris mon péché sur lui. Il est devenu péché, malédiction pour moi. Il n'a pas juste fait une petite prière. Il n'a pas juste donné un petit conseil. Jésus a pris sur lui mon péché, ma souffrance. Et c'est là la compassion. Comprendre vraiment ce que c'est la compassion de Dieu. C'est entrer dans la souffrance, s'identifier avec la difficulté, avec la misère de l'autre. Et on a vu qu'il y avait du travail à faire pour le christianisme moderne. Christianisme moderne qui arrête pas de prêcher sur l'onction, sur les dons, sur la prophétie, sur les ministères, plein d'affaires qui sont centrées, dans le fond, sur soi-même, sur comment atteindre des nouveaux niveaux. Mais nulle part, on nous enseigne comment être une meilleure personne avec la compassion. Personne nous parle de l'importance du pardon. Personne nous enseigne. Personne fait des conférences sur l'importance de la compassion. Comment est-ce que la compassion de Dieu peut changer le monde? Comment est-ce que la compassion de Dieu peut transformer l'Église? Donc, on a du travail à faire en ce qui concerne le christianisme de nos jours. Et dans Colossiens chapitre 3, verset 12, nous lisions ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Colossiens chapitre 3, verset 12. Et finalement, le dernier bloc, celui que nous avons couvert depuis quelques semaines, qui concerne la vision, la vue. Vous vous souvenez, on avait vu dans le chapitre 8, qu'il y avait trois groupes de personnes. Il y avait le monde qui était là, qui avait faim, qui ont été présents lors de la deuxième multiplication des pains. Il y a eu les pharisiens et il y a eu par la suite les disciples. Et chaque un de ces groupes représente des groupes de l'humanité également. Et donc la foule nombreuse lors de la seconde multiplication des pains représente dans le fond le monde qui vit dans les ténèbres à cause du péché, le monde qui est aveuglé parce qu'il vit dans les ténèbres, parce qu'il vit encore dans son péché, parce qu'il n'a pas rencontré la lumière de Jésus-Christ. On a vu également les pharisiens qui, eux autres, représentent ces groupes de personnes qui sont aveuglées par leur attachement plus à la religion, plus aux traditions qu'à la parole de Dieu et qu'à son essence. Et les disciples qui, eux, sont aveuglés à cause de la dureté de leur cœur. Et donc, tous nous sommes aveugles à différents niveaux, différents degrés, et tous nous avons besoin de Jésus. Que Jésus vienne nous ouvrir les yeux. On a vu également que les pensées de Dieu sont tellement différentes que nos pensées, parce qu'également, encore là, notre vision est tellement floue, tellement petite comparée à ce que Dieu voit, la vision de Dieu. Et le défi pour l'Église aujourd'hui est de servir. Le défi pour l'Église est d'être l'Église et de servir avec une pensée humaine, même si c'est la meilleure, la pensée la plus positive, la pensée la plus remplie de vertus, mais humaine, ou de servir avec une vision claire du plan de Dieu, de la volonté de Dieu. Ça, c'est un défi pour l'Église aujourd'hui. On peut avoir la meilleure pensée positive et être à l'écart ou à l'opposé même de la volonté de Dieu. On peut dire les choses correctement. On peut avoir les meilleurs conseils, on peut avoir les meilleurs discours, on peut être les meilleurs motivateurs de ce siècle et être complètement à l'opposé de la volonté de Dieu. Et donc là, c'est le défi de l'Église, c'est le défi de toute personne qui veut prêcher la parole de Dieu. Est-ce qu'on va prêcher la parole ou est-ce qu'on va prêcher autre chose? Les gens vont trouver des orateurs qui vont dire des choses qui vont faire plaisir à leurs oreilles. Est-ce que c'est le rôle de l'Église? Est-ce que ce sera, est-ce qu'on va tomber dans ce piège-là? Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde que cela nous arrive. Mais c'est certainement un défi. Un défi pour nous aujourd'hui. D'où l'importance que Dieu nous ouvre les yeux. Et une chose qu'on voit également dans le chapitre 8, c'est que Dieu ouvre les yeux sur trois choses importantes qui sont le fondement du christianisme. La première, c'est Jésus-Christ. Lorsque Jésus demande aux disciples, qui dites-vous que je suis? Et que Pierre, par révélation de Dieu, donc parce que Dieu lui a ouvert les yeux, il dit, mais tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Et par là, le fondement numéro un du christianisme, c'est Jésus-Christ. Donc, d'avoir une relation, une communion avec le Seigneur. Deuxièmement, Jésus introduit, une fois que la révélation de Jésus est annoncée, Jésus révèle l'Église et il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et par là, donc, en définissant l'Église, en l'annonçant, il définit également sa portée, sa destinée, que même le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et donc, par là, Jésus place également l'importance dans l'Église, donc le corps de Christ, la vie de l'Église, la vie de communauté. Et le christianisme, c'est une vie de communauté également dans le corps de Christ. Ce n'est pas vivre seul. Et là, il y a un défi pour nous tous qui, depuis le mois de mars, nous avons développé certaines habitudes par rapport à vivre le christianisme à travers l'écran. Lorsque le temps va venir pour d'ouvrir les églises et qu'il sera encore une fois de plus permis de se réunir, la vie de communauté va être importante. Et pour certains, ça va être essentiel de reprendre cette vie de communauté-là ou même de vivre une transformation dans cette vie de communauté parce qu'elle est essentielle à notre édification, à notre vie, à notre foi. Et s'en éloigner peut être dangereux pour une âme. Donc, à garder un œil ouvert là-dessus. L'Église, c'est une vie de communauté dans le corps de Christ. Et au verset 34, donc on arrive justement au chapitre 8, verset 34, lorsqu'il appelle la foule et ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et là, Jésus ouvre les yeux sur l'importance de la vie du disciple. Que ceux qui suivent le Seigneur, ceux qui veulent suivre le Seigneur, ceux qui veulent être imitateurs de Christ, doivent renoncer à vivre une vie basée sur leurs propres besoins, à prendre le fardeau de quelqu'un, parce que la croix de Christ, Christ a pris ma croix. Donc, ma croix à moi correspond au fardeau de quelqu'un d'autre que moi. De vivre, non pas plus pour mes propres intérêts, non plus basé sur moi-même, mais pour service aux autres. Donc, une vie d'obéissance et une vie de service. Et voilà ce qui est au cœur du christianisme. Comprendre qui est Christ, avoir une vision claire sur Jésus, avoir une vision claire sur l'Église et avoir une vision claire sur la vie de disciple. Si on comprend, si on arrive à voir ces trois éléments-là, eh bien, ça va régler bien des choses dans notre vie. Ça va nous aider à aller plus loin dans la nouvelle année. Donc, voilà en gros les 30 sessions que nous avons, que nous avons vues ensemble. J'espère que je ne vous ai pas trop lancé... des informations, comme je vous dis, c'est 30 semaines qu'on a essayé de mettre ça on a essayé de mettre ça compact en une session, mais comme je vous disais auparavant, si jamais vous voulez aller plus en détail, mais vous pouvez toujours retourner dans les visionnements de ces sessions-là. Donc, nous avons exploré beaucoup de choses par rapport au service, et Dieu voulant, nous allons continuer dans la nouvelle année pour apprendre davantage. Donc, j'espère que depuis mars, vous êtes de meilleurs serviteurs. Depuis mars, vous comprenez bien des choses et que votre cœur s'est approché du cœur de Dieu. Que votre vision également, elle s'est éclaircie, elle s'est définie davantage et que aujourd'hui vous êtes mieux positionné pour servir Dieu, pour servir l'Église et pour servir le monde. Donc, on va prier, on va remettre... tout entre les mains du Seigneur. Avant de prier, j'aimerais vous souhaiter, en mon nom et au nom de mon épouse, une nouvelle année, une belle année 2011, remplie de bénédictions, de la grâce de Dieu, mais de défis également qui vont vous permettre de grandir et de vous perfectionner en tant qu'enfant de Dieu. Que vous allez, si vous n'êtes pas en service, si vous ne servez pas, que vous allez découvrir et entrer avec les bonnes motivations dans une vie de service, dans une vie de disciple. Et si vous êtes en train de servir, que vous allez développer ça, l'approfondir, et voir qu'il est possible de servir le voisin pour le Seigneur, qu'il est possible de servir le collègue au travail pour le Seigneur, pour la cause de Christ, qu'il est possible de servir un inconnu dans le métro pour la cause de Christ, qu'il est possible de servir l'Église également, avec tous ses défauts et ses imperfections, qu'il est toujours possible de servir et de le faire avec compassion et de le faire avec amour. C'est ce que je nous souhaite à nous tous, que nous soyons une Église qui serve Dieu, qui serve l'Église et qui serve le monde, comme la parole de Dieu nous le demande. Alors nous allons prier. Alors, nous allons remettre toi de mes seigneurs. On va prier de façon spéciale pour la sœur Julie, une dame qui est aux soins intensifs, qui est mourante. On nous dit que c'est à cause de la COVID. Donc, nous allons prier. Il y a un frère qui a partagé cela sur, je pense, les commentaires. Donc, oui, effectivement, nous allons traiter cela dans la prière. Donc, pour la sœur Julie, nous allons prier maintenant. Nous allons remettre tout entre les mains du Seigneur également. La parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir fait son effet, son travail. Donc, tout ce que nous avons vu n'est pas en vain, que nous puissions continuer à tirer profit, à tirer des leçons pour avancer avec lui. Prions. Élevons la voix. Seigneur, te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Te rendons grâce, Seigneur, pour ta fidélité et pour ta parole. Seigneur, sans toi, nous serions perdus. Sans toi, Seigneur, il n'y aurait aucun espoir, aucune espérance. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes, Seigneur, cette opportunité d'être attaché à toi et de te servir, Seigneur, avec un cœur comme le tien. Avec, Seigneur, avec le modèle que nous avons eu en toi. Que nous puissions être, Seigneur, de bons imitateurs de Dieu, de bons imitateurs de Christ, Seigneur. Toi qui es le modèle parfait, Seigneur, de service et de serviteur. Seigneur, tu vois comment chacune des paroles qui a été donnée, Seigneur, avait un travail à faire dans nos cœurs, dans nos vies. Je te demande de continuer à le faire dans nos vies, que nous puissions être de meilleurs serviteurs et servantes pour la prochaine année. Merci Seigneur pour toutes les occasions de service que nous avons eues cette année. Merci Seigneur pour tous les défis, pour tous les bons coups, pour tous les échecs qui nous ont permis Seigneur de grandir et Seigneur de mûrir. Je te demande Seigneur que on puisse juste être de meilleurs serviteurs pour toi dans la nouvelle année. Peu importe Seigneur dans ce que tu nous placera là où tu nous placeras, dans le contexte, Seigneur, que nous puissions te servir toi, servir l'Église et servir le monde pour la gloire de ton nom, pour que tu sois glorifié, Seigneur. On veut également, Seigneur, présenter devant toi notre sœur Julie, Seigneur, qui est aux soins intensifs, qu'également, Seigneur, tu puisses te glorifier. Tu puisses, Seigneur Jésus, accomplir ta volonté précieuse et glorieuse dans la vie, Seigneur, de cette femme. Glorifie-toi, Seigneur, dans cette situation. Agis, Seigneur, comme seul toi tu peux agir. Te rendons grâce, Seigneur, parce qu'en toi nous savons qu'il y a la promesse de guérison, qu'il y a la promesse de la vie éternelle, Seigneur. Alors, Seigneur, nous remettons cette situation entre tes mains, Seigneur, afin que tu agisses en faveur, Seigneur, de ta fille Julie, la famille, des gens qui sont autour. Que cela puisse également servir de témoignage, Seigneur, pour la gloire de ton précieux nom. Nous devons prier dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Merci encore une fois de votre présence, de votre participation, de votre écoute. Que votre cœur soit une bonne terre pour la parole de Dieu, pour la mettre en pratique, pour être d'excellents serviteurs, parce qu'il va en avoir des défis, et avec Dieu, nous allons faire de grandes choses. N'oubliez pas, demain soir, encore une fois, je répète, à partir de 23h15, un temps avec le pasteur Florent. Il y aura la Sainte Cène, il y aura une bénédiction pastorale également, donc à ne pas manquer, préparons-nous, préparons nos cœurs pour la Sainte Cène, et avec ce qui est nécessaire également, soyons prêts et soyons réceptifs à ce que Dieu voudra faire avec nous. Pour certains, c'est un grand événement. Lorsqu'on termine une année, on commence une autre. Pour Dieu, c'est un jour de plus, mais un jour de plus dans son plan, dans sa grâce, dans sa volonté. Alors, allons de l'avant, tous ensemble, avec le Seigneur. Bonne soirée. Bon restant de ce qui reste de mercredi. Et je vous dis shalom. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.